Bonsoir, c'est donc officiel depuis quelques minutes, le Parlement donne son feu vert définitif à la réforme du travail par ordonnance. La rentrée sera-t-elle sociale? Deux dates sont déjà inscrites sur les tablettes des manifestations du mois de septembre. La CGT appelle à une journée d'action pour le 12 et Jean-Luc Mélenchon pour le 23. Ces fameuses ordonnances ne devraient être connues qu'à la fin août. Après la loi El Khomri, un nouveau projet. Pourquoi faire? À quoi faut-il s'attendre? Êtes-vous inquiet, confiant? Le code du travail et le chômage sont-ils liés? Posez vos questions par mail sur franceinter.fr, sur les réseaux sociaux avec le mot dièse Telson et bien sûr au 01 45 24 7000.
Noé Da Silva, le téléphone sonne.
Et première question avec vous, Frédéric, bonsoir, bienvenue au téléphone sonne, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir à tous. Je voulais demander à nos invités comment on peut promouvoir et parler du dialogue à l'intérieur de l'entreprise quand, à l'heure actuelle, du moins dans les circonstances françaises, le chef d'entreprise a quasiment tous les pouvoirs et les salariés quasiment aucun. Alors on est loin effectivement d'une branche où les salariés, par le biais des syndicats, sont beaucoup plus puissants. On est loin aussi du modèle allemand où les salariés ont une place beaucoup plus importante, par exemple, dans les comités d'entreprise. Est-ce que je peux faire une remarque également?
Allez-y.
Je voudrais tordre le cou, enfin, à titre personnel, à une réflexion que je livre à votre sagacité. On dit tout le temps que les entreprises, ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Alors, les entreprises ne sont pas faites pour créer de l'emploi, elles sont faites pour faire des profits. Et c'est tout à fait légitime. Ce qui crée les emplois, c'est la demande. Alors, il y a des entreprises qui sont plus douées que d'autres pour créer la demande ou pour la capter, mais c'est la demande qui crée les emplois, pas les entreprises. Si une entreprise peut se débrouiller pour fonctionner avec le moins d'emplois possible, eh bien, elle le fait. Et d'ailleurs, actuellement, c'est ce qu'elle fait. Actuellement, les entreprises ont plutôt tendance à détruire des emplois, me semble-t-il, qu'à en créer.
Voilà pour un aspect philosophique de ce débat ce soir. Alors Frédéric, pour vous répondre, autour de la table du téléphone sonne, François Omril, président de la CFE-CGC, la Confédération Française de l'Encadrement. Bonsoir.
Bonsoir.
Alain Alphonlet, responsable du pôle travail-emploi de la CGT. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Alain Griset, président de l'Organisation patronale de l'artisanat U2P. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci.
Précision, artisanat, commerce et profession libérale.
Oula, c'est trop long. Merci d'être avec nous. Qui veut répondre à la question de Frédéric? Comment peut-on parler de dialogue au sein d'une entreprise tant que, voilà, quand on voit le chef d'entreprise a des pouvoirs, le salarié n'en aurait pas?
Moi, si vous voulez bien, je vais commencer. Je pense que cette question, effectivement, est assez importante et elle introduit bien le débat. Finalement, elle nous renvoie à la notion d'entreprise et ce qui constitue l'entreprise et le champ dans lequel l'entreprise aujourd'hui fonctionne. D'abord, je voudrais dire à Frédéric qu'aujourd'hui, le dialogue social, il marche, on va dire, dans l'ensemble, pas si mal que ça dans les entreprises. Il y a chaque année 30 000 accords qui sont signés. On le dit assez peu, mais il est bon de le rappeler. Preuve que le dialogue social dans l'entreprise existe, c'est une réalité concrète. Mais effectivement, la question de Frédéric nous renvoie à la place de l'entreprise dans la chaîne économique et à la difficulté qu'il y a aujourd'hui pour une entreprise à générer de la valeur économique, à la partager vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, dans un système d'organisation de la chaîne de valeur qui fait que plus l'entreprise est petite, plus elle est contrainte dans le système économique, plus elle est contrainte à donner une partie de ses marges à l'ensemble de la chaîne économique. Et ça, c'est un problème, effectivement.
Alors, sur le dialogue, peut-être Alain Griset, puisque vous représentez l'U2P, Organisation patronale de l'artisanat, etc. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler de dialogue au sein d'une entreprise quand c'est le patron qui a tous les pouvoirs?
Tout d'abord, je crois qu'il faut différencier.
Notamment dans les TPE, dans les petites entreprises.
Il faut différencier. On n'est pas du tout dans le même type d'entreprise entre l'entreprise du CAC 40 où il y a des dizaines de milliers ou des milliers d'entreprises, de salariés, et les entreprises qui sont d'ailleurs les plus nombreuses. 95% d'entre elles qui ont moins de 20 salariés. Et donc beaucoup dans lesquels il y a 2-3 salariés. Et naturellement, le dialogue social ne peut pas s'articuler de la même façon.
C'est à ces entreprises que vous souhaitez, c'est pour ces entreprises que vous souhaitez cette nouvelle loi travail?
Naturellement, parce qu'au plus l'entreprise est petite, au plus la contrainte est importante. Et au plus c'est compliqué, au plus c'est difficile pour le chef d'entreprise. Et donc nous, le dialogue social, naturellement, formel tel qu'on l'entend dans une grande entreprise, se passe à l'extérieur de l'entreprise. C'est pour ça qu'a été créé il y a quelques années les commissions paritaires régionales qui sont à le dialogue social, mais qui sont externalisés de l'entreprise.
Au 01 45 24 7000, le débat continue avec une nouvelle question. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir à tous.
Alors merci de répondre, je vais avoir deux petites questions. Donc la première, si l'on va vers une simplification du code du travail en donnant aux entreprises le pouvoir par des négociations internes et de branches, en sachant que l'entreprise a un pouvoir ascendant sur le salarié, c'est que l'on vise vers un travail à la carte qui dépendrait uniquement des besoins de l'entreprise. À ce moment-là, où se situent les besoins de l'individu pour construire sa vie, accéder au crédit lorsqu'il doit jongler entre des petits boulots? Et ma seconde question, suite à la crise de 2008, des États ont déjà flexibilisé le travail, le résultat une hausse de la précarité malgré de la croissance. Et pour cela, je prends l'exemple de l'Espagne, avec une croissance de 3,2% en 2016 et pourtant une montée de la précarité chez les plus jeunes, plus de 27%. Et est-ce que le plein emploi passe-t-il réellement par une modification du code du travail ?
Merci Ludovic. Alain Alfonlet, responsable du pôle travail-emploi de la CGT, peut-être tout de suite sur cette question de la flexibilité et du coup une plus grande précarité ailleurs chez nos voisins européens.
Oui, effectivement, je pense que Ludovic a tout à fait raison. Ce qui nous est proposé, d'après ce qu'on a compris, puisqu'on n'a pas eu de texte, mais d'après ce qu'on a compris, ce qui nous est proposé, c'est effectivement quelque chose qui se met en œuvre depuis 40 ans maintenant. On nous demande de réduire les droits des salariés et soi-disant ça créerait des embauches. Pour mémoire,
c'est ce qui fonctionne ailleurs. Après, la question est de savoir si on veut cette société-là.
Pour mémoire,
plusieurs emplois.
D'abord, ça fonctionne pas forcément ailleurs parce que ce qui se présente, par exemple, je pense à l'Allemagne où il y a eu une augmentation de chômage au départ, puis après il y a eu la baisse des salaires et maintenant ce qu'on retrouve, c'est qu'en fait il y a moins de chômage en Allemagne, mais il y a de plus en plus de précarité et notamment de travailleurs pauvres. Le taux de pauvreté en Allemagne est de 22%, alors qu'il est que de 8% en France. Mais quand je disais que ça fait 40 ans, pour exemple, M. Gattaz-Père proposait en 1986 de supprimer l'autorisation administrative de licenciement. À l'époque, l'inspection du travail pouvait empêcher autoriser ou pas le licenciement. Ouais. La plupart du temps, il le faisait à 90% ou 95%. Monsieur Gattaz avait dit à l'époque, supprimer cette autorisation et je créerai 471 000 emplois. Il était plus précis que son fils qui lui proposait 1 million il y a 3 ans, mais qui porte plus le pins aujourd'hui.
Alors Ludovic évoquait dans sa première partie de question l'inversion de la hiérarchie des normes, les accords d'entreprise qui passeraient avant les accords de branche. Est-ce que ça va créer de l'emploi véritablement, Alain Griset, pour l'UDP?
Tout d'abord, pour nous, l'accord de branche doit être prioritaire. Dans nos entreprises, l'accord d'entreprise n'a pas de sens. Quand vous avez un ou deux salariés, ça n'a pas de sens. Et l'accord de branche, c'est la sécurité à la fois pour le chef d'entreprise et le salarié. Mais à l'intérieur de cet accord de branche, nous souhaitons une liberté suffisante pour pouvoir adapter l'entreprise au marché, même si elle est petite. Par contre, j'ai un désaccord avec mon homologue par rapport à la précarité depuis 40 ans. On ne peut pas dire que le statut des salariés aujourd'hui est plus précaire aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Toutes les mesures qui ont été prises et nos collègues employeurs, eux par contre, qui ont peu de salariés, se trouvent dans une insécurité juridique qui est extrêmement préjudiciable et qui naturellement est un frein à l'emploi.
Noureddine, au 01 45 24 7000, bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, moi je voulais revenir sur un point, c'est que depuis une trentaine d'années, le problème du chômage, il est récurrent en France. On a vu un tas de gouvernements de gauche, de droite, alternativement tenter tout un tas de réformes qui n'ont jamais fonctionné. Alors pour une fois qu'on vient avec quelque chose d'un petit peu nouveau, quelque chose peut-être qui va un peu dans le sens de ce qui se fait dans les pays nordiques, peut-être faut donner un peu de chance à cette réforme et puis voir si effectivement elle va pas permettre de fluidifier un peu le travail et les entreprises. Alors évidemment, il faudra mettre des garde-fous par rapport aux multinationales qui vont essayer de trouver les failles du système. Mais globalement, il faut donner la chance à cette réforme par rapport à ce qu'on a fait depuis une trentaine d'années qui n'a jamais fonctionné.
Alors Noureddine, pour vous répondre, François Omri, le président de la CFE-CGC, voilà, il faut pas se braquer et il faut essayer. Est-ce que vous dites pareil ?
Alors, essayez, pourquoi pas. Premièrement, moi, si Noureddine connaît l'inventeur des garde-fous qui permettront d'éviter que les multinationales, par effet d'aubaine, n'utilisent toutes les libéralités qui vont leur être confiées au titre de la réforme par ordonnance, à ce moment-là, il faut de toute urgence qu'ils nous en donnent l'adresse. Parce que nous, ce qu'on constate depuis des années, depuis au moins 30 ans et 17 réformes sur le Code du travail, c'est qu'en vérité, il y a toujours les moyens pour les entreprises qui ont la structure juridique et technique de s'y adapter, il y a toujours le moyen de s'adapter aux évolutions du travail et de toujours en tirer le meilleur profit pour l'entreprise et pour ses actionnaires. Moi, je veux juste dire quelque chose par rapport à la remarque que vous faisiez tout à l'heure. Quelle société veut-on ? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on souhaite une société dans laquelle le salarié sera la seule variable d'ajustement aux contraintes économiques qui pèsent sur l'entreprise ? Nous, on ne méconnaît pas qu'il y a des contraintes économiques sur l'entreprise. Je crois que chacun ici est prêt à réfléchir, à discuter sur la question de ces contraintes, qui sont de nature parfois juste géographique, qui sont parfois de nature des contraintes de marché, des contraintes internationales. Il y a des contraintes de toute nature. Mais nous, ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, c'est sur le principe de faire peser au seul salarié à travers la précarisation et la flexibilisation à outrance du contrat qui le lie avec son entreprise, de faire peser sur lui seul toutes ces contraintes-là.
Alain Alphand-Lair de la CGT.
Oui, je rajouterais, y compris que les multinationales, elles pèsent aussi sur les petites et moyennes entreprises et sur l'artisanat, parce qu'il y a 60% des petites et moyennes entreprises qui travaillent pour des grands groupes. Mmh. Mais je reviens, on a 22... on a comptabilisé ça. On a 22 contrats possibles pour embaucher quelqu'un aujourd'hui en France. 22 contrats. On ne peut pas dire qu'on n'a pas des possibilités de pouvoir...
Mais la question peut-être qui se pose, c'est il y en a trop et c'est...
Et c'est pas ce qu'on nous propose, puisqu'on nous propose d'en rajouter quelques-unes de plus, là, d'après ce que j'ai compris. Et on a modifié un certain nombre de choses. Par exemple, pour les licenciements, il y a maintenant, depuis 2008, les ruptures conventionnelles. 2 700 000 personnes sont parties en rupture conventionnelle depuis 2008. Donc, je veux dire, la question d'abord, avant de faire des réformes, c'est peut-être d'évaluer. Par exemple, Monsieur Griset le disait, nous, on a mis en place toutes les organisations syndicales de salariés avec l'UDP, à l'époque c'était l'UPA, des commissions paritaires régionales. Ça fonctionne.
Pour évaluer quoi ?
Mais évaluer ce qui a été mis en place sur le dialogue social et qui marche.
Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on passe à une nouvelle loi ?
Pourquoi on changerait un certain nombre de choses qui marchent très bien ?
Est-ce que vous avez déjà évalué la loi El Khomri ?
La loi El Khomri, la seule chose que je peux vous dire, moi, et d'ailleurs c'est très étonnant parce qu'on n'en parle plus dans le débat aujourd'hui, c'est qu'elle a rajouté 123 articles supplémentaires au Code du travail. Comme par hasard, on ne nous parle plus de la grosseur du Code du travail. On nous en parle plus de ça. Or, que ce soit les chefs d'entreprise et les petites entreprises, comme les salariés, plus personne ne s'y retrouve avec les dérogations qu'il y a dans le Code du travail. Et on aura besoin de le simplifier. Il y a des chercheurs et des universitaires qui ont proposé un Code du travail simplifié. J'ai pas cru comprendre qu'on les ait beaucoup écoutés.
Le téléphone sonne sur France Inter avec une nouvelle question. Bonsoir Christophe, bienvenue.
Oui, bonsoir. Alors voilà, moi je suis donc Christophe, je suis en Ile-de-France, dans les Yvelines. Je suis chef d'entreprise, très rapidement. Donc en fin 2013, j'ai repris une entreprise, on était 12. Aujourd'hui, on est 22. La loi, alors moi je vais l'appeler la loi El Khomri, je ne l'ai pas appliquée, désolé. Mais bon, même si c'est du direct, dans la mesure où ça allait à l'encontre de mes salariés, parce que d'abord c'est ma première entreprise, et également, ce que je voudrais savoir, parce que moi je n'ai pas le temps de m'en occuper, c'est avoir une synthèse de cette nouvelle loi, savoir si moi ou non je vais décider de pas l'appliquer, si ça va aller à l'encontre de mes salariés. J'avais déjà appelé l'inspection du travail et donc pour la loi, on va la rappeler El Khomri. Ce qui se passe, c'est que en fait, c'était complètement idiot. Moi, je risquais de perdre la moitié de mes salariés.
Donc là, la question ce soir, c'est vous voulez qu'on vous résume
une
un petit
synthèse,
peu.
Voilà, une synthèse. Alors,
on va faire
sur
une synthèse sur ce que l'on sait, puisque vous négociez depuis plusieurs semaines, mais la CGT et la CFE-CGC l'a rappelé, il n'y avait pas de texte devant vous. Alors, je vous vois un petit peu là faire les gros yeux. Qui sait ce qu'il y a exactement ? François Omeril de la CFE-CGC.
Effectivement, sans prendre trop le risque de tomber dans la technique, parce qu'il faut, je crois, rassembler tous les auditeurs autour du thème, Ce qu'il y a de très particulier dans la phase actuelle, c'est qu'il n'y a pas de texte de départ. Or, nous, syndicalistes, c'est vrai, nous sommes formés et habitués à travailler sur un texte de façon ouverte, à faire évoluer le texte. Comme je dis souvent, chacun prend ses risques et ses responsabilités avec des propositions. Et au final, il s'agit ensemble de trouver un accord qui satisfait aux parties. Aujourd'hui, nous n'avons pas de texte, nous avons cette loi d'habilitation qui ouvre tous les chapitres et les rencontres bilatérales. Donc chaque organisation avec le cabinet du ministre, hein, sans qu'il y ait un partage au niveau de l'ensemble des organisations, amène finalement chacun à donner ses positions sur ce que le cabinet, le ministère pourrait proposer dans la rédaction du texte des ordonnances.
Concrètement, que savez-vous ?
Et concrètement, ce qu'on sent pointer finalement, c'est une loi El Khomri +++. Voilà. En tout cas, c'est l'analyse de la CFE-CGC, avec finalement l'ouverture toujours plus importante.
Mais vous avez négocié sur quoi ? Vous avez parlé de quoi ou vous avez demandé quoi ?
Nous, on s'exprime sur les différentes thématiques qui sont ouvertes par le ministère, notamment sur le fait qu'il pourrait désormais y avoir la possibilité d'ouvrir la négociation sur des parties salariales dans les entreprises qui sont aujourd'hui couvertes par les branches professionnelles. Et je veux simplement signaler sur cet exemple-là, par exemple, les primes d'ancienneté le 13e mois, voilà des choses qui parlent aux gens, qui sont aujourd'hui des dispositifs conventionnels et qui pourraient être ouverts en fonction de la pression économique sur les entreprises, à la négociation à la baisse dans les entreprises.
Et ça, vous êtes...
On y est forcément défavorable parce que c'est tout simplement l'image portée sur ce qu'on appelle le dumping social. Dès l'instant qu'une entreprise aurait la capacité à diminuer ses salaires parce que la pression lui serait faite par le marché économique, eh bien, elle serait contrainte de le faire. Et toutes les entreprises du secteur seraient amenées à le faire.
Est-ce qu'Alain Griset, pour l'UDP, donc Organisation Patronale de l'Artisanat, vous souhaitez ça, justement, au niveau des salaires, par entreprise, une négociation ?
Non, peut-être plusieurs choses. D'abord, pour nos entreprises en particulier, les salariés, c'est notre capital. Donc pour nous, il est important d'avoir des salariés qui soient bien dans nos entreprises. On en a besoin. Bon, et il n'est pas question pour nous de dire que les salariés doivent être totalement exploités. Au contraire, c'est un moment important de l'activité de l'entreprise. Deuxième élément, nous n'avons pas, nous, à l'UDP, plus d'informations de textes que nos collègues. Par contre, je crois que tout le monde sait très bien que le gouvernement souhaite travailler sur les instances représentatives du personnel, souhaite travailler sur les questions du prud'homme.
Alors justement, que dit cette loi ? C'est notamment une question de Jean-Claude. Que dit la loi sur le droit à l'information quant à la vie, la gestion et l'avenir de l'entreprise ? C'est un peu les instances représentatives.
Je pense que le gouvernement a dit d'une façon ou d'une autre qu'il souhaitait réformer les instances représentatives du personnel. En ce qui nous concerne, on leur a dit que ça ne nous concernait pas, puisque ces instances ne sont pas chez nous de la même façon installées que dans les grandes entreprises. Nous, ce qu'on a dit par rapport à ça, c'est que naturellement, il fallait trois éléments prioritaires pour nos entreprises pour qu'on considère que cette réforme soit utile. La première, c'est effectivement arrêter les seuils entre 0 et 20, parce que c'est là un frein pour développer nos entreprises. La deuxième, c'est au niveau de la réforme du prud'homme.
Les seuils pour les instances, justement, représentatives.
Oui, par exemple, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des seuils fiscaux, des seuils sociaux.
D'accord. Bien.
Ensuite, il y a la question de la procédure prud'homale. On voit beaucoup de nos collègues qui, pour des raisons de forme, quelquefois, sont condamnés, alors que le fond, ils ont raison. Donc, qu'on arrête de condamner nos collègues sur la forme, et qu'ensuite, nous sommes favorables plutôt à l'accord de branche, contrairement à ce que dit le gouvernement, avec la possibilité de déroger pour l'entreprise. Si ces trois éléments-là ne sont pas dedans, pour nous, la loi ne servira à rien, puisque ce sera toujours une loi qui sera faite dans un cadre qui n'est pas le nôtre.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Au téléphone, Odile qui a donc composé le 01 45 24 7000. Bonsoir Odile, quelle est votre question ?
Bonsoir. Alors, ma question s'adresse à Alain Alfouler de la CGT, notamment en lien avec un mouvement de coursiers de la plateforme numérique Deliveroo. Effectivement, il y a un angle mort dans le projet d'habilitation, enfin dans la loi d'habilitation sur le renforcement du dialogue social, qui est la question des plateformes collaboratives numériques. Et ma question est tout simplement, bah, quelles sont les réflexions, les apports qui sont réfléchis à l'heure actuelle, aussi en lien avec ce qui se passe du côté de ces coursiers des bibereaux pour renforcer le dialogue social à destination de ces travailleurs, de ces nouvelles formes d'emploi et de travail.
Voilà, des coursiers qui sont à vélo ou sur des deux roues en tout cas, oui, et qui livrent notamment des repas aux travailleurs ou à domicile. Qu'en pense la CGT ?
Oui, on les connaît bien puisqu'ils sont syndiqués chez nous.
Est-ce que cette loi les prend en compte puisque c'est un univers qui tient à cœur au président Macron?
Pas du tout. D'ailleurs, leur demande, c'est... En fait, tous ces travailleurs indépendants ont une recherche d'autonomie dans le travail importante et sur laquelle ils ont absolument raison. Mais par contre, ils n'ont aucune protection. Et eux, ce qu'ils demandent, c'est justement de la protection, notamment la protection sociale, parce que c'est eux qui se la payent, et des protections aussi sur leur travail, puisque aujourd'hui, par exemple, on leur modifie leur contrat de travail, on leur demande de les payer différemment. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est... ça va. Je remercie cette question d'Odile, parce que nous, on a des propositions concrètes pour réellement changer le dialogue social en France. La première des choses, c'est qu'au lieu de travailler sur la question du contenant, travaillons sur le contenu. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait le travail réel au centre du débat dans le dialogue social aujourd'hui. Et ça marche bien avec le patronat de l'artisanat, parce qu'ils le connaissent, le boulot. Eux, ils le font en même temps que les salariés. Mais dans les grandes entreprises, ils ne le connaissent pas, le boulot. Et on aurait besoin de remettre au centre la réalité du travail. Quand je pense que...
Donc, en gros, vous dites quoi? C'est pas grave s'il n'y a pas de syndicat dans les petites entreprises?
Je suis pas en train de dire qu'il faut balayer la manière dont on organise le dialogue social. Mais venons aussi sur la question du contenu. Et par rapport à ça, nous, ce qu'on propose, et notamment par rapport aux travailleurs indépendants, c'est que aujourd'hui les droits soient attachés à la personne et pas seulement liés à l'entreprise, permettant aux gens de pouvoir avoir des droits qui leur sont attachés et qui soient transférables d'une entreprise à une autre, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne feront pas le même boulot pendant 40 ans dans la même entreprise.
Alors justement, je crois que sur ce thème, il y a Didier qui nous appelle ce soir. Bonsoir Didier.
Bonsoir, François Inter. Oui, c'est pour faire un témoignage. Quand on dit que les patrons ne peuvent pas licencier, en plus c'est grave, le code du travail qui va être changé, ça je trouve ça inadmissible. J'ai voté Macron, mais je regrette, oui, parce que moi je suis socialiste à la base, et j'ai voté parce que j'avais pas le choix, mais je veux dire, je pensais pas qu'il allait quand même détruire le code du travail. Et quand on dit que les patrons qui sont toujours en train de se plaindre ne peuvent pas licencier, ça c'est pas vrai. Moi j'ai été licencié il y a quelques années, on était licenciés comme des Kleenex, et je veux dire, les patrons peuvent licencier, c'est pas vrai. Quand ils disent qu'ils peuvent pas licencier, c'est pas vrai. Et là, on va leur donner un boulevard pour licencier encore plus. Alors, je trouve ça scandaleux, moi ça me horripile, quoi. Je veux dire, c'est honteux, quoi. Donc, c'est encore les petits qui vont traquer, quoi.
Didier, vous êtes scandalisé par cette réforme du code du travail. Alain Griset, qui dirige l'organisation syndicale patronale U2P, c'est vrai qu'on entend beaucoup les patrons dire on a peur d'embaucher parce qu'on ne sait pas demain comment évoluera notre chiffre d'affaires, notre économie, et finalement on aura des difficultés pour licencier. Est-ce que cette loi, vous en attendez justement qu'elle vous facilite le licenciement? Comme le redoute Didier.
Non, l'objectif, c'est pas de faciliter les licenciements. L'objectif, c'est d'éviter que le chef d'entreprise soit lui-même dans une situation d'insécurité totale. Je veux simplement que les auditeurs se rendent bien compte, et je pense que beaucoup connaissent ces situations, que lorsque vous êtes un chef d'entreprise dans lequel il y a un ou deux salariés, le fait d'embaucher un salarié de plus, c'est quelque chose qui pèse énormément sur l'entreprise. Et naturellement, si le chef d'entreprise sait que cette embauche va mettre en danger son emploi lui-même, au chef d'entreprise, et les deux autres, il va préférer ne pas le faire. Et donc nous, notre projet, notre objectif, c'est pas naturellement d'insécuriser les salariés, mais c'est nous aussi de sortir de l'insécurité juridique des employeurs eux-mêmes. Quand l'auditeur parle des patrons, il faut qu'il se rende bien compte que si on dit un patron celui qui a un salarié, il est lui-même insécurisé aujourd'hui. Et je veux simplement peut-être faire un petit commentaire sur la question précédente et des plateformes. On touche là à deux sujets qui sont extrêmement importants. La situation des plateformes et leur non-respect, parce que les utilisent souvent des travailleurs indépendants, alors qu'ils les utilisent comme des salariés, et la situation de ces travailleurs indépendants, qui en réalité n'ont indépendants que le nom, parce qu'ils sont totalement là, dans une situation de dépendance totale aux plateformes. Et donc, il est très clair que là, il va falloir que, de façon précise, le gouvernement touche à la fois la question du code du travail, mais également de la situation des travailleurs indépendants qui sont là.
Donc là, ça veut bien dire qu'on a besoin d'une loi et qu'on a besoin du code du travail.
Bien sûr. Ah, mais il est évident qu'aujourd'hui, si, écoutez, si la situation était parfaite, ça serait depuis longtemps.
Alors, il y a Damien, par mail, sur franceinter.fr, qui nous dit « L'Italie applique la flexi-sécurité depuis 3 ans. Les salariés attendent toujours le volet sécurité. Sera-t-il, est-ce que ce sera la même chose ?» En France, on voit qu'il y a toujours cette inquiétude sur... En gros, voilà, est-ce que c'est la fin du CDI, peut-être, Alain Alfonler de la CGT?
Mais oui, c'est la grosse problématique depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'on nous dit flexibilité, mais on n'a jamais eu sécurité. Et nous, ce que nous proposons, c'est effectivement une sécurisation du parcours du salarié en donnant des droits à la personne et transférable d'une entreprise à une autre. C'est bien de ça dont il s'agit. Je voudrais dire un mot par rapport à ce qui a été dit sur les licenciements par l'employeur. Si on a bien compris ce que nous propose le gouvernement, parce qu'encore une fois, on n'a pas le texte, il va proposer d'augmenter les indemnités légales, c'est-à-dire quand un employeur en toute légalité, licencie quelqu'un, il a des indemnités à verser, et ça, le gouvernement va les augmenter. Et par contre, il va plafonner les indemnités prud'homales, qui sont des indemnités décidées par des juges, ils sont 4, et parce que l'employeur est fautif. C'est-à-dire qu'on va avoir une situation où, en fait, on va faire compenser par des employeurs honnêtes la malhonnêteté de certains employeurs. C'est quand même fort de café de la part du gouvernement que de proposer ça. Et moi, je fais effectivement la différence entre les employeurs honnêtes et malhonnêtes et ceux qui sont dans les petites entreprises et les grands groupes.
Alors, on parle de négociation au téléphone 01 45 24 7000. Julien, bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir. Donc moi, ma question s'adresse aux syndicalistes qui sont présents à l'émission. Principalement, en fait, je pars du principe que participer, c'est cautionner. Et donc, en fait, je me posais la question de la participation des syndicats aux discussions dans le cadre d'un projet de réforme par ordonnance. Et que, est-ce qu'il n'y aurait pas eu plus de poids dans la contestation dans la rue si les syndicats avaient boycotté ces négociations? Et donc, du coup, quand il y a la contestation dans la rue, il n'y aurait eu aucune contestation possible sur les objectifs et sur la position des syndicats, quoi.
François Omeril de la CFE-CGC, vous avez rencontré évidemment le Premier ministre et vous avez écouté ce que le gouvernement avait à vous dire. Vous avez fait des propositions. Est-ce que maintenant, vous pouvez en gros aller manifester avec la CGT le 12 septembre prochain?
Alors, je vous remercie de repréciser la question. Je vais essayer d'y répondre. Mais je pense que dans le moment politique qui a suivi l'élection présidentielle, très sincèrement, on ne peut pas faire de procès d'intention à ce stade au nouveau gouvernement et au président de la République. Certes, il y a eu une campagne électorale, mais on est tous bien informés qu'une campagne électorale charrie beaucoup de slogans et qu'après l'élection, dès l'instant que le pouvoir en place manifeste le désir de travailler dans la concertation, honnêtement, on ne peut pas refuser de le faire. Maintenant, le moment est venu, effectivement, peut-être de douter sur la qualité du résultat. On a quand même un certain nombre de signaux, d'échos, de bribes. On a aussi les contacts et les comptes rendus des entretiens que nous avons eu avec le ministère, qui nous indique, malheureusement, c'est un peu l'objet de ce débat ce soir, que cette réforme sera une réforme supplémentaire de déstructuration du marché du travail et d'insécurisation des salariés, et que ça n'aura aucun impact sur l'emploi. Maintenant, j'en viens à votre question sur la question de la manifestation. Pour ce qui me concerne, à la CFE-CGC, nous avons des instances. Nous allons, à la rentrée, attendre quand même le résultat du texte qui devra nous être présenté le 25 août. Et le moment venu, nous aurons le débat en interne pour savoir ce qu'il y a lieu de faire pour réagir à ce qu'il y aura in fine dans le texte.
Alain Alphand, je ne vous pose pas la question puisque vous avez appelé à manifester pour le 12 septembre. Je passe directement à Alain Griset pour l'organisation UDP. Est-ce que vous, si vous êtes déçu par les ordonnances à la fin du mois d'août, vous irez manifester avec la CGT, puis après avec Jean-Luc Mélenchon ?
Bien, tout d'abord, pour répondre à la question de l'auditeur, nous ne sommes pas en négociation actuellement. Nous sommes en concertation. On nous demande quelles sont les propositions que nous avons à faire, de notre point de vue, pour essayer d'améliorer la situation de nos entreprises. Et donc, la moindre des choses, lorsqu'on est partenaire social, c'est de faire des propositions. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, s'il y a négociation, nous irons négocier et on dira si on est d'accord ou pas. Alors ensuite, les méthodes pour montrer notre désaccord. Elles sont multiples et naturellement, dans ce cadre-là, on gardera quelles sont les méthodes les plus adaptées pour défendre l'intérêt de nos collègues.
À 19h49 sur France Inter, le téléphone sonne et Eric pour une question. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Voilà, donc je voulais parler d'une situation d'emploi un peu particulière. J'habite en montagne et comme plein de gens en montagne, j'ai plusieurs emplois. Mmh. En l'occurrence, j'ai 4 emplois, j'ai 2 CDD et j'ai une micro-entreprise et j'utilise du portage salarial pour pouvoir boucher en fait tout ça pour arriver à travailler toute l'année et nourrir mes enfants. Et c'est quelque chose qui a toujours existé en montagne, je dirais même depuis la préhistoire, donc les institutions ont juste 6000 ans de retard dans ce domaine-là. Mais on nous avait promis en 1984 de faire quelque chose pour nous dans la loi montagne, c'est-à-dire en termes de nos cotisations sociales, et à savoir qu'on cotise, qu'on n'ait qu'une seule caisse pour cotiser à travers tous ces emplois, pour éviter de cotiser mais de perdre des droits, parce que quand on cotise sur des tout petits trucs, sur des toutes petites sommes, des fois on n'a pas les droits en face. Et donc, depuis 1984 et la loi Montagne, il ne s'est rien passé. Alors je voulais savoir si dans cette loi travail, on en avait profité pour essayer de penser à des gens comme moi, parce qu'en montagne on est nombreux, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le reste de la société, c'est-à-dire y compris en ville, il va y avoir de plus en plus de gens comme nous.
Qui ont plusieurs emplois.
Qui ont plusieurs emplois, voilà.
Alain Alphonlaire pour la CGT.
Oui, alors moi je peux vous répondre que, d'après ce que j'ai compris, le gouvernement n'a pas décidé de répondre à votre problématique. Mais ça correspond complètement à ce que je disais de la proposition de la CGT sur un nouveau statut du travail salarié qui permet donc de donner des droits aux salariés et qui soient attachés à leur personne et qui soient transférables d'une entreprise à une autre. Aujourd'hui, n'importe quel salarié qui quitte une entreprise et qui va être embauché dans une autre, on ne le reprend pas à son ancienneté, on ne le reprend pas à sa qualification, il perd du salaire, etc. etc. Donc il est en insécurité. Et ça, c'est un élément essentiel. Enfin, je voudrais dire quand même une chose, je l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument qu'on arrive à ce qu'on avance sur un dialogue social qui parle du travail. Quand je vois votre radio, on a fait écho, qu'aux Opalines, les salariés ont fait 3 mois de grève, simplement pour pouvoir bien travailler et bien soigner des personnes âgées. Mais dans quel monde vivons-nous? C'est de ça qu'il s'agit de parler dans le dialogue social aujourd'hui.
La philosophie est plus grande, plus ample. 19h51, Françoise est avec nous. Bonsoir Françoise, soyez la bienvenue.
Bonsoir. Voilà, moi je voudrais poser une question un petit peu plus générale, parce que j'ai travaillé dans le privé pendant une quinzaine d'années et je suis à la fonction publique dans la justice. Alors pour moi, si vous voulez, je suis pour la libéralisation du marché du travail. J'ai travaillé le dimanche sans aucun souci, mais j'étais rémunérée à la commission et sur les bénéfices de l'entreprise. Donc moi je pense que les salariés seraient susceptibles d'accepter beaucoup de choses à condition qu'à une nouvelle insécurité ou flexibilité corresponde un avantage, c'est-à-dire être au minimum rémunéré sur les bénéfices de l'entreprise. Et d'autre part, si vous voulez, il faudrait que, si les patrons sont plus libres, par contre, quand ils commettent une infraction, ils soient plus sévèrement sanctionnés. Parce qu'actuellement, le droit du travail, c'est un véritable maquis. Il faudrait tout remettre à plat, à savoir qu'une infraction à la législation du travail, comme ne pas payer son employé, c'est pas du vol. C'est pas sanctionné par la loi pénale, c'est une simple infraction. Et c'est complètement injuste. Donc pour moi, il faudrait vraiment remettre à plat tous les codes, parce que la justice spécialisée, pour moi, c'en est pas une. Hein. Et puis, le véritable problème, c'est pas tellement le contrat de travail, plutôt que la non-existence du contrat de travail, à savoir le travail dissimulé. Il y a énormément d'argent qui est perdu par le gouvernement. Donc pour moi, c'est régler le problème par le petit bout de la lorgnette. Il faudrait tout remettre à plat. Voilà, c'est ce que je pense vraiment.
Il aurait fallu couper votre radio puisqu'on vous entend en écho, mais ce n'est pas grave. On a tout compris. En tout cas, merci Françoise. Je sais à qui je vais donner la parole. C'est à l'organisation patronale de l'artisanat U2P et à vous, Alain Griset. Répondez, défendez-vous.
Non, mais je ne me suis pas senti attaqué par la question de l'auditrice. D'abord, il y a deux choses. Non, ni visé en plus. Non, deux choses. Je pense que la vraie insécurité aujourd'hui en France, c'est le chômage. Déjà. Et qu'effectivement, si on pouvait trouver une solution pour réduire le chômage, il y aurait globalement, de la part même des salariés, une vision moins pessimiste dans l'environnement. Deuxième chose, vous savez, quand la dame parle des sanctions et du fait que les sanctions ne sont pas assez fortes, pour nos collègues, en tout cas dans nos entreprises, les sanctions, quand elles tombent, souvent c'est la mort de l'entreprise.
Pour les petites entreprises, que vous représentez.
Et le chef d'entreprise lui-même, il a tout perdu. Et quelquefois, pour beaucoup d'entre eux, ils ont même perdu leur bien propre dans leur entreprise. Donc, je ne peux pas entendre dire que les sanctions ne sont pas suffisantes quand un homme ou une femme qui investit dans une entreprise perd son entreprise, perd ses biens propres. On est là dans des mesures qui sont extrêmement lourdes.
Vous voulez réagir, François Omrine ?
Oui. D'abord, je pense qu'il faut rappeler qu'on dit toujours l'entreprise au singulier, mais l'entreprise, c'est une entité très plurielle. Entre la petite entreprise et la très grande multinationale, il n'y a absolument rien de comparable en termes de fonctionnement, d'objectifs et de stratégie. Il faut rappeler aussi que les entreprises sont concurrentes entre elles et qu'elles sont souvent dans un lien de subordination entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Et tout ça crée la chaîne de valeur et que le problème que l'on a aujourd'hui sur le plan économique, c'est que dans la chaîne de valeur, la répartition de la valeur ajoutée entre les différents contributeurs à cette chaîne de valeur n'est pas équilibrée. Et que quand elle n'est pas équilibrée entre les entreprises, on peut comprendre effectivement qu'on ait du mal à l'équilibrer entre l'employeur et les salariés. Et ça, c'est le problème fondamental. Et je veux dire, pour terminer, que la question de Françoise, elle est fondamentale. L'ambition du projet aurait dû être de faire rentrer l'organisation de l'entreprise dans le 21e siècle. Or, malheureusement, ce projet s'est arrêté à ras de terre et nous propose la 18e flexibilisation du marché du travail et que nous sommes tous extrêmement déçus.
Et de la question de Françoise, nous passons à la question de François. Bonsoir François et bienvenue sur France Inter.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui. Est-ce que la flexibilité, c'est une bonne question ? Est-ce qu'on ne se trompe pas de question ? Moi, je crois que la vraie question sur le travail, c'est comment on se partage équitablement les gains de productivité du travail. Parce que pendant les 30 glorieuses, de 45 à 75, ce partage des gains de productivité du travail ont été très équitables, ce qui a permis justice sociale et paix sociale, le slogan du Conseil national de la Résistance avec Stéphane Hessel. Eh bien, ce bien commun qu'est le gain de productivité du travail, il a été bien réparti pendant les 30 glorieuses entre la hausse des salaires pour acheter mieux les marchandises, entre la baisse des prix pour rendre les marchandises plus abordables pour un plus grand nombre. Troisièmement, par la rémunération du capital machine, ça c'est normal, mais surtout par la réduction du partage du temps de travail. On est passé de 60 heures à 40 heures, c'est considérable, cette réduction du temps de travail qui m'a permis à moi de travailler, d'être la génération du plein emploi. Et tout ça pour travailler moins, pour travailler mieux, et travailler moins, pour travailler tous. Alors moi, je crois que depuis Pompidou, le chômage ne fait qu'augmenter parce que tous les gains de productivité du travail ont été accaparés, ont été siphonnés par les actionnaires uniquement. Cela s'appelle la cohérence néolibérale. Et si on y rajoute les bénéfices fabriqués par les marchés internationaux qui sont ensilés pour moitié dans les paradis fiscaux, eh ben on a tout compris. Alors, il faut pas se tromper de question, disait Einstein. Quand on se trompe de question, eh ben on ne résout jamais les problèmes.
Et quand nous nous trompons de question, vous êtes là pour en apporter de nouvelles. François, on va terminer avec un tour de table par rapport à votre réflexion. Et Alain Alphonler de la CGT, que pensez-vous de cette réflexion de François ?
Bien évidemment, je n'étonnerai personne en disant que je la partage complètement. La question, effectivement...
Tout va aux actionnaires, et c'est là.
La question, c'est surtout le mécanisme, c'est la financiarisation de notre économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la finance... C'est plus le moyen pour développer des produits, des services, etc. C'est devenu un but. Et on a bien vu, malheureusement, avec ce qui se passe notamment, et dont malheureusement la ministre en a profité, qu'on touche des stock options aujourd'hui. Quand on licencie des personnes, ça peut plus aller. Ça peut plus aller comme ça. Mais ça pèse sur toutes les entreprises, y compris les petites.
François Omrine, de la Confédération française de l'encadrement.
Oui, et ben écoutez, moi, je vais peut-être vous étonner, mais j'ai pas grand-chose à enlever à le petit éditorial que vient de nous faire François en guise de conclusion. Je pense que c'est le vrai problème aujourd'hui début de l'économie, effectivement, c'est de regarder comment ce qui constitue l'entreprise peut évoluer en parallèle. L'entreprise, ça n'est pas que le dialogue social. L'entreprise, c'est aussi un employeur, mais c'est aussi du capital qu'il faut rémunérer et pour lequel aujourd'hui, il est urgent de se poser la question de savoir comment on met sous contrôle la rémunération du capital. C'est aussi une stratégie qu'il faut partager avec l'ensemble des salariés. C'est l'ensemble de ce dispositif qu'il faut examiner et qui, malheureusement, n'est pas dans l'ambition de la réforme.
Alain Griset, de l'organisation patronale UDP.
Ben, par rapport à ce qu'a dit François, moi je suis d'accord avec lui pour dire que le monde a changé considérablement. Et il change très vite. Et qu'on évolue dans des règles qui sont plus adaptées dans le monde, du monde actuel. Donc ces règles, c'est à la fois le code du travail, c'est la fiscalité, c'est les cotisations sociales, et qu'il va falloir...
Il faut réglementer l'argent qui va aux actionnaires.
Je parle pas de ça.
En plus, lui, d'abord,
nous, on n'est pas concernés. Non, nous, on n'est pas concernés. Non, je dis que d'une façon globale, on voit bien aujourd'hui que pour nos entreprises, les cotisations sociales, c'est un vrai sujet, la fiscalité s'en est aussi, et que le code du travail, c'est un élément parmi tant d'autres qu'il faudra naturellement réussir à réformer.
Merci beaucoup, messieurs. Alain Griset, président de l'organisation patronale de l'artisanat UDP. Alain Alphonlet, responsable du pôle travail-emploi de la CGT. François Omeril pour la CFE-CGC, Confédération française de l'encadrement. Interview évidemment à retrouver en podcast et sur franceinter.fr.